Yes, ce matin, j'ai un message que j'ai vraiment sur mon cœur. Mais avant ça, j'aimerais commencer par une anecdote. Une anecdote qui s'est passée en 2014 en France. Et c'était un commissaire qui faisait comme une espèce d'inventaire dans une maison pour évaluer la valeur des biens pour pouvoir les revendre aux enchères plus tard. Donc, il procède à sa petite évaluation, tout ça. Puis, à un moment donné, il est surpris. Il est surpris parce qu'il tombe sur des pièces datant de l'époque médiévale et certaines même datant de l'époque de Louis XIV. Donc là, il appelle ses collègues pour vraiment être sûr qu'il authentifie correctement ces pièces-là. Et c'est bel et bien ces pièces qu'il pensait qui ont un grand héritage. Et ils ont procédé à une vente aux enchères quelques semaines plus tard. Et tenez-vous bien, cette vente aux enchères a récolté plus de 300 000 euros, ce qui représente quasiment un demi-million de dollars. On est tous d'accord qu'on aimerait avoir cette somme sur notre compte en banque, vrai ou pas? Je suis très très loin du compte, laissez-moi vous... C'est certain que je suis loin du compte, mais il y a quelque chose qui était vraiment intéressant là-dessus, c'est que la personne qui a trouvé cette pièce-là a dit ceci. Le médaillé était caché derrière un rideau. La famille connaissait son existence sans réellement savoir ce que c'était. Si ce n'est que la collection était arrivée ici après plusieurs héritages. C'était extraordinaire, dit-il. Les pièces d'or et d'argent étaient recouvertes d'un voile de poussière. Cette famille avait un trésor qui valait un demi-million de dollars chez eux et ils n'en avaient aucune idée. Ils l'ont juste tassé, l'ont mis derrière un rideau, ils l'ont laissé prendre la poussière. Puis moi, ce qui me fait halluciner, c'est que cette famille-là, ils sont un peu comme nous. Ils ont dû avoir des moments où peut-être financièrement, c'était un peu plus difficile et tout. Et puis, ils ont dû avoir des réflexions comme « Est-ce cette année, chérie, on n'ira pas dans le tout inclus à Cuba, on n'a pas les moyens. » Alors qu'ils avaient un demi-million de dollars chez eux. Ils ont sous-estimé la valeur du trésor. Et laissez-moi vous dire que c'est ce que nous pouvons faire avec la prière. Il est possible pour nous de sous-estimer l'importance de ce trésor-là. Pourtant, la prière est littéralement l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour apporter des changements ici sur cette terre. Est-ce qu'il y en a qui le croient ? La prière, c'est quelque chose qu'on peut rapidement sous-estimer, puis on peut rapidement voir les thématiques de dire « Ok, c'est janvier, c'est la thématique sur la prière, on va encore parler de ça », puis sous-estimer l'impact que ça a dans nos vies. Puis moi, ça a été mon cas pendant longtemps. Pendant longtemps, même après ma conversion, c'est comme si je doutais de l'utilité de la prière. Je me disais « Dieu, il connaît tout ». C'est vrai ou pas? Dieu, il connaît toutes mes pensées, il connaît tous mes désirs, mes besoins les plus chers, ce que j'ai à cœur, mes rêves, il connaît mes peines, mes souffrances, il sait ce dont j'ai besoin. Pourquoi est-ce que je devrais lui demander? Il m'aime, il me connaît, pourquoi il ne me donne pas juste sans que j'ai à lui demander? Et puis, je suis tombé sur un verset qui m'a vraiment fait prendre la prière plus au sérieux. Et ce verset, c'est le suivant. « Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. » Ça, c'est un verset d'une lourde signification. Parce qu'il dit, il y a des choses qui te sont disponibles par la prière, mais que tu manques chaque année simplement parce que tu ne le demandes pas. Et dans la prière, il est hyper important de faire la distinction entre la volonté conditionnelle de Dieu et la volonté inconditionnelle de Dieu. Dieu a une volonté inconditionnelle. Il y a des choses que Dieu veut qui vont arriver quoi qu'il arrive, que tu pries ou que tu ne pries pas. La venue de Jésus est un exemple. Que les gens avant nous aient prié ou pas, c'était certain que Jésus allait venir pour sauver l'humanité. Le retour de Jésus, c'est exactement la même chose. Que tu pries ou que tu pries pas, Jésus va revenir chercher son église. Amen. Ça, c'est une des promesses que la parole de Dieu nous donne. Mais Dieu a également une volonté conditionnelle. Il y a des choses qu'il veut pour ta vie, mais qui dépendent de ta prière, de ta vie de prière. Si tu pries, tu vas les avoir. Si tu ne pries pas, tu vas les manquer. Il y a des choses qui sont disponibles par la prière que nous pouvons manquer. Donc si tu es là ce matin et que tu ne pries pas ou peu, ce message est pour toi. Parce que si tu veux t'emparer de ce que Dieu a pour toi cette année, tu n'as pas le choix de prier. Mais si tu pries cette année, si tu pries régulièrement, de manière disciplinée, même depuis de nombreuses années, mais que tu vois peu ou pas beaucoup de résultats à tes prières, ce message est également pour toi. Parce que la suite du verset nous dit ceci. « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une vie de prière depuis de nombreuses années et quand même avoir peu de fruits, peu de réponses positives à nos prières de la part de Dieu. Et ce matin, c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Comment avoir une vie de prière efficace ?» Si en 2023, tu veux expérimenter tout ce que Dieu a pour toi, tu n'as juste pas le choix d'avoir une vie de prière efficace. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment avoir une vie de prière efficace? Premièrement, en priant avec les bonnes motivations. Jacques 4, versets 2 et 3 nous dit ceci. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs, avec des mauvaises motivations. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Ce qu'il est en train de dire, c'est que vous demandez des choses, mais vous ne recevez pas parce que vous le demandez avec des mauvaises motivations, avec des motivations qui sont égoïstes simplement pour parfaire vos propres plaisirs. Ce verset ne dit pas que c'est mal de prier pour nous-mêmes. En fait, la Bible nous dit en Philippiens, « Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des supplications. » Dieu, tel un père aimant, il veut connaître tous tes besoins, même les plus petits, les plus insignifiants, tu peux lui apporter parce qu'il a les bras toujours grands ouverts pour toi, il veut prendre soin de toi. Mais ce que ce texte parle, c'est qu'il y a vraiment un côté où des fois, nous pouvons être motivés par des mauvaises motivations dans nos prières et Dieu est très intéressé par les raisons de pourquoi on demande ce qu'on demande. Et on est dans la thématique les prières de la Bible et la première prière qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une prière que le roi David a fait. Et le contexte de cette prière, c'est que David était le roi du peuple d'Israël et au moment où il fait cette prière, il est dans un bon mood. Il vient de recevoir une bonne nouvelle. Dieu a libéré le peuple d'Israël d'une manière incroyable. Et lorsqu'il a reçu cette nouvelle-là, David, il est dans la joie. Il est dans la louange. Il exprime sa reconnaissance à Dieu. Il est tellement dans la joie qu'il compose un chant. Il compose un chant qu'il chante à Dieu. Et durant tout le psaume, c'est juste de la louange. De la louange, il adore Dieu, il le remercie. Il est juste reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour lui. Mais il termine son psaume d'une manière intéressante. Il termine son psaume en disant ceci. « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Loué soit Dieu car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour et ne m'a pas retiré sa bonté. » Dans les derniers versets du psaume, David dit quelque chose de fort. Il dit « Si j'avais gardé des intentions coupables, si j'avais gardé des plans de continuer à faire des choses que je sais pertinemment qui déplaisent à Dieu, Dieu n'aurait pas écouté ma prière. » Un peu comme l'histoire que je vais vous raconter de deux de mes anciens amis qui ont vécu et qui s'appellent Brian et James, qu'on va appeler Brian et James pour protéger l'anonymat de leur personnalité parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle est assez troublante et ils sont pas vraiment à leur avantage, autant Brian que James. Brian et James étaient des amis très très proches, ils étaient toujours l'un avec l'autre. Et à tel point que Brian était tout le temps chez James. Brian était chez James, puis ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ils jouaient à la PlayStation, ils regardaient des films, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Les choses que les jeunes adultes font. Sauf qu'à un moment donné, Brian est passé par un moment difficile. Il a perdu son père. Et son père est décédé. Et comme toute personne qui vit un deuil, les semaines, mois qui ont suivi ont été extrêmement difficiles pour lui. Les mois ont été difficiles pour lui. Et James a été un ami fidèle. Il a été un ami fidèle durant cette période-là et il l'a soutenu. Il l'a soutenu encore plus que d'habitude, ce qui fait que Brian était encore plus chez James. Il passait encore plus de temps, c'était quasiment sa deuxième maison. Et à un moment donné, alors que James était seul avec ses autres amis, pour une fois qu'il n'était pas avec Brian, ses amis lui ont fait une remarque. Ils ont dit « Hey, Brian, on a l'impression qu'il passe beaucoup de temps chez toi. J'ai l'impression qu'il abuse un peu de ton hospitalité. » Et là, James a répondu quelque chose. James a fait une blague de mauvais goût qu'il allait regretter par la suite. Et cette blague, c'est la suivante, il a dit « Ouais, Brian a perdu son nouveau père, c'est moi. » Et là, ouais, c'était vraiment de mauvais goût. Et bien sûr, la ville où j'habitais était très petite. Ce qui fait que cette mauvaise plaisanterie qui avait causé le rire de tout le monde est arrivée aux oreilles de Brian. Et Brian, c'est le genre de personne impulsive. C'était mon meilleur ami, mais il est très impulsif. C'est le genre de gars, quand il pète une coche, tu le sais. C'est le genre, il pète une coche, il casse tout, puis il réfléchit après. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme ça, levez pas la main dans la salle. Mais Brian, lui, était vraiment énervé. Donc là, lui, il arrive, il se chauffe, et il parle à un ami, puis il dit, « Ok, James, je sais, je connais sa maison par cœur, j'y vais souvent. Je sais qu'il laisse toujours sa porte arrière débarrée à chaque fois. » Donc là, Brian se met à planifier un coup et d'aller cambrioler James. C'est une vraie histoire, ok? Ça, c'était mes amitiés avant ma conversion, ok? Il prévoit d'aller le cambrioler et de tout casser chez lui. Et là, finalement, il passe à l'acte. À un moment donné où James était sorti à l'extérieur, il rentre par la porte en arrière, il arrive, il casse tout, il vole des objets de valeur. Mais sauf qu'il faut savoir quelque chose à propos de Brian, c'est que Brian était très croyant. Il croyait en Dieu. Il disait à tout le monde qui croyait en Dieu qu'il était religieux et tout. Puis nous, lorsqu'on a appris cette histoire-là, on allait le voir, puis on l'a confronté. On lui dit, Brian, tu dis que t'es croyant, tu dis que tu crois en Dieu, mais ton Dieu, il en pense quoi de ça, de que tu vas cambrioler un gars qui a ton ancien ami en plus qui t'a hébergé plusieurs fois et tu casses tout chez lui. Et là, Brian nous a répondu une réponse légendaire, une réponse lunaire, une réponse à laquelle on n'aurait pu jamais s'attendre. Il dit, non, mais guys, vous comprenez pas. C'est qu'avant d'aller le cambrioler, j'ai prié. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, pardonne-moi pour le péché que je suis sur le point de commettre. Après, il continue, il dit, et même quand j'étais en train de casser sa télé, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je suis en train, pardonne-moi pour la télé que je suis en train de casser en ce moment. C'est comme on lui dit, ça marche pas là. C'est, même moi qui n'étais pas vraiment chrétien à cette époque-là, je dis, ça marche pas, Brian, ça marche juste pas. Puis aujourd'hui, dans cette salle à Nouvelle Vie Châteauguay, remplie d'hommes et de femmes matures spirituellement, c'est facile pour nous de dire, mais Brian, voyons donc, tu peux pas prier pour quelque chose et, alors que tu es sur le point de faire quelque chose qui déplaît à Dieu. Mais est-ce que ça nous arriverait, des fois, de demander des choses à Dieu, demander à faveur à Dieu pour certains domaines de nos vies, sachant qu'il y a certains autres aspects de notre vie où on sait très bien qu'on lui désobéit et on planifie aucunement d'arrêter? Est-ce que ça pourrait nous arriver? Puis je ne suis pas en train de dire que pour avoir une vie de prière efficace, il ne faut plus jamais pécher de notre vie, sinon on serait tous disqualifiés, ça serait tous fini. Mais ce que David est en train de dire, c'est que bien que nous ayons péché par le passé, nous ne planifions plus de pécher dans le futur. Une vie de prière efficace va de pair avec une vie de repentance authentique. Tu ne peux pas avoir une vie de prière où tu vois la main de Dieu agir dans ta vie et dans celle de ton entourage avec puissance, avec impact, avec influence, si tu n'as pas une vie de prière, une vie de repentance authentique. Jésus dira en Matthieu 5, 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Jésus est radical, il dit, si tu sais que tu es en conflit avec ton frère, avec quelqu'un, et que tu sais consciemment qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, avant de venir me voir, va régler ton conflit et ensuite viens dans ma présence. Une vie de prière efficace va de pair avec une vie de repentance authentique. Et avec le temps, j'ai découvert une prière à laquelle Dieu répond toujours. Quasiment toujours et immédiatement. Est-ce que vous voulez connaître cette prière? Cette prière, on la trouve dans le psaume 139. Elle a été priée il y a des milliers et des milliers d'années par le roi David. Et cette prière, c'est la suivante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une des prières qui a le plus marqué ma vie. Je l'ai fait, ça fait des années que je la prie. Mais il y a quelques semaines, ce verset-là, cette prière-là, je l'ai compris dans une nouvelle dimension parce que j'ai un ami qui a des connaissances en médecine et il m'a expliqué un peu ce que c'est de réellement se faire sonder. C'est comme j'avais une compréhension de « Ok, je sonde mon cœur, bah, Dieu il connaît mon cœur. » Mais sonder, c'est ce que c'est une sonde. Il m'a expliqué ce que c'était. Et voici la définition de ce qu'est une sonde. Une sonde est un instrument destiné à explorer les canaux de l'organisme. C'est un instrument en forme cylindrique, la plupart du temps, qu'on introduit à l'intérieur du corps pour diagnostiquer un patient. Se faire sonder, c'est quelque chose de douloureux. Okay, se faire rentrer quelque chose à l'intérieur pour diagnostiquer, c'est douloureux. Okay, souvenez-vous juste des tests PCR qu'on a vécu dans les dernières années. Juste ça, j'ai l'impression que j'allais perdre mon nez à chaque fois. Mais une sonde, c'est encore plus douloureux. Et j'aimerais vous dire que cette prière-là, que tu fais à Dieu, elle peut être douloureuse aussi. Lorsque tu viens avec un cœur sincère et tu dis, Seigneur, montre-moi s'il y a quoi que ce soit dans ma vie en ce moment qui te déplaît. Montre-moi s'il y a quoi que ce soit en ce moment dans ma vie qui met une distance entre toi et moi. Et puis, je vous confesse, on est en famille aujourd'hui. Moi, c'est une prière que j'ai commencé à avoir peur de prier au fil du temps parce que je savais que Dieu allait me convaincre, Dieu allait pointer des choses dans ma vie auxquelles j'étais profondément attaché, mais qui nuisait à ma relation avec lui et qui m'appelait à lui relâcher. Parfois, ça pouvait être une personne qu'il fallait que j'aille pardonner. D'autres fois, c'était que je demande pardon à quelqu'un à qui j'avais fait du tort. Parfois, c'était de confesser un péché à un ami. Parfois, c'était de simplement changer une habitude, un style de vie. Mais je peux vous garantir quelque chose, c'est qu'à chaque fois que Dieu me demandait de renoncer à quelque chose, de lui remettre quelque chose, peu importe à quel point c'était difficile, peu importe à quel point j'étais attaché à cette chose-là, je n'ai jamais regretté de l'avoir remis. Parce qu'à chaque fois que Dieu te demande de relâcher, c'est parce qu'il veut te donner plus. Et à chaque fois que je relâchais, Dieu, il me redonnait une paix que je commençais à avoir perdue. Mon amour pour Dieu et pour les gens recommençait à prendre vie. La foi que Dieu va accomplir des grandes choses à travers moi et dans mon entourage recommençait à prendre vie. Qu'est-ce qui, en ce moment, dans ta vie, met une distance entre toi et Dieu? Si Jésus était assis à côté de toi physiquement là, et que tu lui posais la question, Jésus en ce moment-là, qu'est-ce qui nous empêche réellement d'être plus proches, toi et moi? Qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait? Qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait? Et peu importe à quel point ça peut être difficile, puis je crois réellement que le Saint-Esprit est en train d'agir en ce moment et qu'il est en train de pointer des choses dans ta vie, remets-lui. Remets-lui, tu ne regretteras jamais parce que les bénéfices de marcher dans l'obéissance et sans compromis sont juste infinis. Une vie de prière efficace va de pair avec une vie de repentance authentique. Mais par contre, il ne faut jamais, je dis bien jamais, laisser vos erreurs passées vous remplir de honte et de culpabilité et la laisser paralyser votre vie de prière. Parce que ce même David qui a dit « Si j'avais gardé des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté », ce même David, un psaume avant, en psaume 65, 3, verset 3, dira ceci. « Le poids des fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. » Il faut que tu réalises que tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation en toi, pour toi. Tu es libre de toute condamnation. Et tu peux t'approcher avec assurance et confiance et prier dans le nom de Jésus, sachant que Dieu écoute tes prières. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai toujours entendu des gens prier dans le nom de Jésus. Puis vous savez, quand on est enfant, là, on observe puis on reproduit tout ce qu'on voit. On reproduit tout ce qu'on voit, on est comme des éponges un peu. Puis moi, je me souviens, je me disais, OK, mais j'ai l'impression que les adultes, les grands, dans leur prière, souvent, ils terminent dans le nom de Jésus. Puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le reproduire, je vais l'instaurer dans ma vie de prière, je vais prier, puis ça va me faire sembler mature, spirituel. Puis je me disais, OK, j'ai commencé à le mettre, prier dans le nom de Jésus à la fin, tout ça. Puis pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'était comme une signature à la fin de mes prières ou comme quelque chose de, comme une formule magique qui te donne un peu plus de chances d'avoir des réponses favorables de la part de Dieu. Ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais en étudiant un peu plus la parole de Dieu, en grandissant dans ma foi, j'ai réalisé que prier dans le nom de Jésus, c'est d'une signification hyper puissante, hyper profonde. Lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, ce qu'on dit, c'est littéralement, Seigneur, si je m'approche de toi aujourd'hui, si je te demande d'intervenir dans ma vie, c'est pas basé sur mes mérites à moi, encore heureux. C'est pas parce que j'ai lu ma Bible tous les jours, c'est pas parce que j'ai souffert pour toi, c'est pas parce que je donne ma dîme, c'est pas parce que je sers, c'est pas parce que je vais à l'église chaque dimanche. Non, non, non. Si je te demande d'intervenir dans ma vie, c'est parce que Jésus a vécu la vie parfaite que moi, je n'étais pas capable de vivre. C'est parce que lui, de A à Z, il a vécu ce que moi, j'étais incapable de vivre. Et non seulement il a fait ça, mais il a pris sur lui la culpabilité de mes péchés passés, présents et futurs à la croix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe à quel point tu peux te sentir sale, loin de Dieu, tu peux t'approcher de son trône avec assurance et confiance, sachant que tu es le bienvenu dans sa présence. Est-ce que je peux entendre un amen, nouvelle vie ce matin? Tu es le bienvenu dans sa présence. Et ça, c'est une vérité qu'il faut que tu te prêches à tous les jours. Parce qu'il y a un ennemi qui est là. Il y a un ennemi qui est là et qui veut tout faire pour paralyser ta vie de prière. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui a une vie de prière efficace, c'est un chrétien qui est dangereux pour le royaume de l'ennemi. C'est un chrétien qui a de l'influence, de l'impact dans le monde spirituel et qui fait avancer les choses. Et en passant, la stratégie de l'ennemi, c'est toujours la même. C'est de banaliser le péché lorsque on est tenté de dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Regarde, tout le monde le fait. » Tout le monde le fait. Puis anyway, Dieu est amour, Dieu pardonne, fais-le, c'est pas grave. Puis une fois que tu as cédé à la tentation, c'est ces mêmes pensées qui arrivent et qui te remplissent de honte, de culpabilité, de comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu as pu être hypocrite à ce point-là? Dieu, il est tanné de toi, Dieu, il veut plus de toi. Et tu es rempli de honte et de culpabilité. Puis il y en a, j'en suis convaincu dans cette salle, tu es là, puis ta vie de prière en ce moment, elle n'est pas forte parce que tu es juste rempli de culpabilité, de honte, de haine. J'ai tellement blessé les gens autour de moi. Et peut-être que tu ne te sens même pas digne de prier. Peut-être que même dans la louange tout à l'heure, tu étais timide parce que tu disais, moi, je ne veux pas être hypocrite. Je ne veux pas être hypocrite, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que toi et moi, nous n'avons jamais été dignes en premier lieu d'aller dans la présence de Dieu. Comme Luc a dit tout à l'heure, moi, je suis pasteur des ados. Puis avec les ados, souvent, j'ai ces discussions-là. Parce qu'une des caractéristiques qui caractérise les ados, c'est qu'ils veulent être authentiques. Un ado, ça va être authentique, ça va être vrai. Puis souvent, j'ai ces discussions-là qui me font sourire un peu avec les ados. Ils me disent, Thomas, moi, je vais être vrai, moi. Ce qui fait que moi, quand on chante les chants, je vois tout le monde lever les mains, chanter les chants à l'église et tout. Moi, je ne chante pas parce que moi, je suis vrai. Moi, je suis vrai, puis je suis tellement loin de Dieu pendant ma semaine que je n'ai pas envie d'arriver le vendredi puis de louer Dieu comme si j'étais un bon chrétien alors que Dieu, il sait que je suis tout croche. Mais à chaque fois, je leur dis la même chose. Je leur dis, hey, guys, la raison principale pour laquelle on chante des chants à l'église, c'est quoi? C'est que Jésus a pardonné nos péchés. Donc si tu t'es éloigné de Dieu cette semaine, tu as encore plus de raisons de lever tes mains, de louer ton Dieu parce que la dette qu'il a pardonnée à la croix est encore plus grande que ce que tu pensais la semaine d'avant. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et peu importe où tu te situes, tu es le bienvenu dans sa présence. Ne laisse pas ton passé, tes erreurs, t'empêcher de t'emparer de tout ce que Dieu a pour toi en 2023. Et ne laisse pas le compromis également te voler l'efficacité que Dieu t'appelle à avoir dans la prière. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Comment avoir une vie de prière efficace? Premièrement, avoir des bonnes motivations. Et deuxièmement, la persévérance. Persévère. Une des raisons qui bien souvent nous empêche d'avoir du succès dans notre vie de prière, c'est le manque de persévérance. Pourtant, à de nombreuses reprises, la parole de Dieu nous encourage à persévérer. Colossiens 4:2 nous dit ceci. Persévérez dans la prière. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Beaucoup de passages dans la Bible nous parlent de la persévérance. Puis, je suis certain que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. Si ça fait quelque temps que vous êtes à l'église, vous avez sûrement déjà entendu parler de la persévérance. Vous avez lu des versets. Puis, ce n'était pas nouveau pour moi, la persévérance dans la prière. Jusqu'à ce que je questionne un peu ça, il y a quelque temps où Dieu a vraiment testé de manière particulière ma persévérance dans la prière. Puis, je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi Dieu nous demande de persévérer dans la prière? Si on réfléchit bien, pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'on s'approche de lui et qu'on demande des choses, pourquoi est-ce que des fois ça prend 15 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois? Pourquoi est-ce qu'il ne nous répond pas directement? Il connaît notre cœur, il sait ce dont on a besoin. Et alors que j'ai posé cette question-là à Dieu, une histoire de la Bible m'est venue en tête directement. C'est l'histoire de Lazare. Lazare était un ami de Jésus. Il était vraiment apprécié par Jésus. Lui et ses sœurs Marthe et Marie étaient vraiment appréciés par Jésus. Puis à un moment donné, la Bible nous dit que Lazare passe par un moment difficile. Il tombe malade, gravement malade, à un tel point qu'il est au bord de la mort. Il est au bord de la mort. Et là, Marthe et Marie, ayant côtoyé Jésus, l'ayant vu accomplir un nombre incalculable d'exploits, un nombre incalculable de miracles, ils ont un réflexe qui est totalement naturel et totalement logique. C'est de dire, OK, bah, on va faire appel à Jésus. Jésus, il nous aime beaucoup, il aime beaucoup Lazare. Il va venir, il va le guérir, ça va être la fin, puis on va juste se réjouir tous ensemble. Donc, ils apprennent que Jésus est dans une ville voisine. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prient. Ils envoient une personne avertir Jésus de dire, hey, « Lazare, que t'aimes tant là, il est au bord de la mort, il faut que tu viennes faire quelque chose. » Puis là, nous, en tant que chrétiens, on connaît les exploits de Jésus. Si on lit le texte pour la première fois, on se dit, « Bah, OK, là, on sort le pop-corn, là. On va voir, Dieu va faire un exploit, Jésus va faire un exploit. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va se téléporter là-bas directement, aller le guérir? Est-ce qu'il va juste donner une parole à distance pour le guérir, mais c'est sûr et certain qu'il va agir directement. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Lorsqu'on continue à lire, voici ce qui se passe. « Lors donc qu'il lui apprit qu'il était malade, il demeura, il est vrai, 2 jours au lieu où il était. » What? Ton ami proche, il est malade, et toi, ta réaction, c'est de rester dans la ville où tu es et ce n'est pas d'aller le voir. C'est comme la réaction de Jésus, elle paraît totalement illogique, totalement incompréhensible d'un point de vue humain. J'irai même plus loin. La réaction de Jésus peut sembler froide, insensible. De dire, Lazare, tu l'aimes, non? Tu vois pas qu'il est en train de souffrir le martyr? Toi, tu peux, en un claquement de doigts, régler la situation, mais tu restes 2 jours dans cette ville-là, tu vas pas le voir. Et il y en a, c'est le cri de ton cœur ce matin. Peut-être que tu le verbalises pas, mais ça fait des années, des mois que tu pries pour une situation et tu as l'impression que Dieu est insensible à ta souffrance. Insensible à ta peine. Tu as l'impression que tu pries, puis plus tu pries même, tu as l'impression que la situation s'empire. Tu pries pour une percée au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel. Peut-être même tu pries pour le salut d'un des membres de ta famille. Tu pries et tu vois aucune avancée. Et tu peux avoir la pensée que, man, j'ai l'impression que Dieu, il est froid, que Dieu, il est insensible face à mon cas. Mais j'aimerais te dire que Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait pas tout de suite et même tout ce qu'il ne fait pas. Dieu a une raison pour tout. Et cette raison, il nous la donne en Jean 11, verset 3. Et cette raison, c'est la suivante. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Dieu a une raison pour tout. Et cette raison, c'est de se glorifier. C'est de se glorifier. Ce que Jésus avait en tête pour Lazare était beaucoup plus ambitieux que de l'accompagner dans les dernières heures de sa vie. Beaucoup plus ambitieux même que simplement aller là-bas et le guérir. Non, non, non. Ce que Jésus voulait faire, c'était littéralement le ressusciter. Parce qu'il y avait des sources historiques qui nous montraient qu'à l'époque, ils avaient cette pensée-là que lorsqu'une personne mourait, il y avait encore, son âme était encore dans son corps pendant environ 3 jours. Mais que passé 3 jours, c'était terminé. La personne ne pouvait absolument plus revenir à la vie. Même un miracle, le plus gros des miracles, ne pourrait pas le ramener à la vie. Mais Jésus, en revenant plus tôt, il aurait privé non seulement Marthe, Marie et Lazare d'un miracle incroyable, le plus grand miracle qu'ils aient vu de leur vie, mais il aurait également manqué l'opportunité de leur annoncer qu'il était lui-même la résurrection et la vie. Parce que cette résurrection de Lazare fait juste annoncer celle de Jésus qui aura un impact encore beaucoup plus grand, celui de sauver l'humanité de ses fautes. C'est pour ça d'ailleurs qu'au verset 15, Jésus dira ceci. Alors qu'il va vers ses disciples pour aller voir Lazare, il dira « Je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Contre toute attente, attendre ces deux jours-là loin de Lazare, c'était la chose la plus aimante que Jésus pouvait faire pour Lazare, Marthe, Marie et pour même nous aujourd'hui qui assistons à ce miracle incroyable. J'aimerais te dire que peu importe dans quelle situation tu es en ce moment, fais confiance au timing de Dieu. Peut-être que ça semble incompréhensible en ce moment, j'aimerais te dire que Dieu, si Dieu n'est pas jamais en avance, il n'est jamais en retard non plus. Il n'est jamais en retard. Et bien qu'il connaisse la fin glorieuse de ton histoire, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot, on va y venir, bien qu'il connaisse la fin glorieuse de ton histoire, ça n'empêche pas qu'il a quand même compassion de ta souffrance en ce moment. Et c'est ce que le texte nous dit. Jésus, il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Mais pourtant, le texte nous dit qu'en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Et le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Jésus savait que dans quelques instants, là, il allait faire passer des larmes de tristesse à des larmes de joie. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais son amour pour eux était tellement grand qu'il dit, « Man, je sais que dans quelques instants, ça va être fini là. Mais j'ai tellement d'amour que même juste la voir souffrir, ça me fait mal. » J'aimerais te dire que ce n'est pas parce que Dieu est en contrôle de toutes choses qu'il est souverain, qu'il n'a pas compassion de toi en ce moment. Parce que toutes les souffrances et peines que tu expérimentes, il les a déjà vécues lui-même. En la personne de Jésus, dans son incarnation, il a tout connu. Il sait ce que c'est de se faire trahir, de se faire humilier. Il connaît la solitude, il connaît la douleur physique, il connaît tout. Ce qui fait que tu peux aller vers lui avec l'assurance que tu vas être compris. Tu sais, des fois, tu partages ta peine à quelqu'un, puis cette personne-là, tu sais qu'elle n'a jamais vécu une peine aussi grande, puis tu lui parles, mais tu sais qu'elle ne comprend pas réellement. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, tu peux aller vers lui cœur à cœur et avoir l'assurance que tu vas être compris. Mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu gardes en tête, c'est que ses voix sont au-dessus de tes voix. Son intelligence, Dieu, il a la connaissance globale, il a le big picture de ta vie. Nous, notre connaissance est limitée, mais lui, sa connaissance... Elle est illimitée. C'est pour ça que des fois, il fait des moves, il nous donne des directions où on ne comprend pas toujours. Parfois, il y a des délais qui semblent interminables, on ne comprend pas toujours. Mais lui, il sait pourquoi il fait. Et son timing est toujours parfait. Son timing est toujours dans l'optique de le glorifier le plus et de te bénéficier le plus. Et je pourrais vous parler de plein d'histoires bibliques qui témoignent de la persévérance. Mais j'aimerais terminer avec une histoire qui témoigne... personnellement, de la persévérance que j'ai expérimentée et qui m'a permis justement d'avoir accès au pardon de Dieu. C'est une histoire qui s'est passée il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, quand je venais d'arriver au Canada. J'ai dit tout à l'heure que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai vécu de mes 0 à 18 ans comme si Dieu n'existait pas. Je faisais un peu ce que je voulais et tout ça, puis je suis arrivé ici à 18 ans au Canada, à Nouvelle-Vie. J'étais hébergé chez ma sœur et ma sœur, elle était passionnée par Dieu. Elle était impliquée dans le ministère, elle servait tout ça, puis elle m'hébergeait chez elle, puis c'est elle qui me conduisait à l'église. Puis je me souviens que j'avais jamais aimé l'église de ma vie, mais pour la première fois, en allant à la jeunesse les vendredis soirs, là j'ai commencé à aimer l'église. J'entendais David Potier à l'époque qui prêchait, puis juste l'entendre, ça me captivait. Pendant une heure, il prêchait, je retenais tout. Ça m'encourageait même à regarder des prédications chez moi, tout ça. Et une des choses qu'il disait, qui était important pour tous les chrétiens apparemment, c'était pas seulement d'aller à l'église, d'écouter des messages, mais c'était également de prendre des temps de dévotion chez soi. Ce qui fait que j'ai commencé à lire ma Bible chez moi, à prier. Et vraiment, je peux vous dire avec tout mon cœur, les temps que je passais avec Dieu à ce moment-là, ils étaient vraiment plates. Ils étaient d'une platitude. Vous savez, lorsque tu lis un chapitre et lorsque tu finis, tu lis les derniers mots du chapitre et que tu as la question, qu'est-ce que je viens de lire ? Ça, c'était mon quotidien. J'essayais de prier, de me dire, OK, je vais avoir une vie de prière fervente, de prier 10, 15 minutes. Je priais. J'avais l'impression que ça faisait une heure que j'étais en prière. Je levais les yeux, ça faisait 2 minutes, même pas que je priais. Ça, c'était mon quotidien. Mais ce que je ne savais pas, c'était que dans l'autre chambre, il y avait ma sœur qui, chaque jour, priait pour moi. Elle priait pour moi, puis ça faisait 8-9 mois qu'elle priait pour moi. Et à un moment donné, elle me l'a dit quelques années plus tard, elle me dit, Thomas, à un moment donné, j'étais tanné. je priais pour toi, mais il ne se passait rien. Je disais à Dieu, Seigneur, je te prie pour Thomas, et ça fait plus de 8 mois maintenant qu'il va à l'église chaque semaine, mais je ne vois aucun changement. Il est toujours autant vulgaire, toujours autant arrogant, toujours autant chialeux. Il va à l'église, mais il n'y a aucun changement, il n'y a aucun fruit. Seigneur, je te prie de me montrer que tu agis dans sa vie. Même si à l'extérieur, je ne vois rien, je te prie au moins juste que je puisse voir qu'il lit sa Bible. Juste qu'il lit sa Bible, que je puisse voir sa Bible sur la table de la cuisine. Au moins que demain, lorsque je me lève, je puisse voir sa Bible sur la table de la cuisine. Comme ça, au moins, je sais que même si à l'extérieur, il n'y a aucun fruit, au moins, je sais qu'à l'intérieur, tu agis. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'au moment, à l'instant T où elle faisait cette prière, ça faisait 8 mois que je lisais ma Bible tous les jours. De manière très plate, certes, mais je lisais ma Bible tous les jours. Mais qu'à chaque fois que je finissais de lire ma Bible, je faisais exprès de la ranger et de la cacher pour pas qu'elle le sache. Parce que vous savez comment sont les sœurs, surtout les grandes sœurs. Si elle avait su que je lisais ma Bible tous les jours, elle se serait enflammée. Elle aurait appelé mes parents. « Ça y est, Thomas, il va se faire baptiser, il va devenir pasteur, tout ça. » Non, je voulais pas ça. Moi, je voulais me laisser le temps de voir ce qui va se passer, de me dire « Ok, est-ce que c'est réellement vrai, cette histoire de Jésus ?» Donc à chaque fois, je la cachais. Sauf une journée où j'étais en retard, je m'étais levé trop tard, tout ça. Puis je suis parti en vitesse, puis là, je vais dans le bus, je monte dans l'autobus et là, je réalise que j'ai oublié ma Bible sur la table de la cuisine. Donc là, je me dis « Ok, rien de grave, des fois, tu rentres du travail avant ta sœur. » Donc là, dès que tu quittes le travail, tu rentres avant Déborah et puis tu ranges ta Bible, puis ni vu, ni connu. Donc là, j'arrive, je quitte le travail, je vais en vitesse à la maison. Là, j'ouvre la porte, elle était déjà là. Elle était déjà là et là, elle se retourne vers moi et tout, elle fait « Ça va, Thomas ?» Puis là, elle me fait « Ta Bible, hein, je l'ai rangée à sa place. » Puis là, elle me fait un clin d'œil, je fais « Ok, c'est bon. » Pendant 8 mois, chaque jour, j'avais réussi à ne jamais oublier de ranger ma Bible. Mais le lendemain où ma sœur a fait cette prière, comme par hasard, j'ai oublié ma Bible sur la table. Deux perspectives de persévérance à travers cette histoire. La première, c'est la mienne. Parce que cette histoire-là, je l'ai su quelques années plus tard, mais pendant cette période-là, moi, j'étais convaincu que ces 8 mois-là où je passais des temps de dévotion avec Dieu, où il ne se passait rien, moi, je pensais que ça, c'était genre avant ma conversion, que genre, ça n'avait servi à rien ces moments-là et que plus tard, j'avais appris à comprendre la Bible. Mais Dieu m'a rappelé à l'ordre. Il m'a dit non. Tu vois, cette histoire, ça te prouve que même lorsque tu lisais, tu avais l'impression de rien comprendre, que tes prières, elles étaient immatures, j'étais déjà à l'œuvre dans ta vie. J'étais déjà à l'œuvre dans ton cœur. J'aimerais encourager plusieurs ici. Plusieurs ici, vous aimez venir à l'église les dimanches, chanter des chants, écouter un message. Mais lorsque c'est le temps de vous poser chez vous, de lire la Bible, de prier, là, c'est plus compliqué. Là, ça semble plus tough. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à persévérer. Parce que ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu ne fait rien. Dieu, il est à l'œuvre. De la même manière que lorsqu'on est enfant, adolescent, lorsqu'on grandit, il n'y a personne qui se dit « Oh, aujourd'hui, j'ai pris 2 cm. Waouh !» Non, c'est annuellement, on est tous pareils. Annuellement, tu vas chez le médecin, puis là, tu te fais mesurer, puis le médecin, il dit « Ah, t'as pris 10 cm cette année. » Quoi ? Je ne m'en suis pas rendu compte. Je te garantis que si tu continues à être fidèle à lire ta Bible, à prier, à chercher la face de Dieu jour après jour, l'année prochaine, à la même date, tu vas pouvoir regarder en arrière et tu vas pouvoir dire « Waouh, il y a du chemin qui a été parcouru. » Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que Dieu ne fait rien. La deuxième perspective de persévérance, c'est celle de ma sœur. Ma sœur, elle priait pour une situation, elle priait pour moi et d'un point de vue extérieur, il n'y a rien qui avançait. Même des fois, elle avait l'impression que je devenais de pire en pire. J'aimerais encourager quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Dieu, il est toujours en action. Et il y en a cette année, 2023, ça va être l'année où tu vas recommencer à prier pour des choses que tu avais arrêté de prier. Recommence à prier pour le salut d'un des membres de ta famille, pour le salut d'un de tes proches. Recommence à prier pour une guérison, pour une percée au niveau sentimental, au niveau de ta carrière. Continue à persévérer en prière parce que Dieu entend les prières de ton peuple, de son peuple. Continue à persévérer. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Aie foi que Dieu entend tes prières et qu'il répondra au moment où ça profitera le plus à sa gloire et à toi. Trop souvent, bien trop souvent, ma foi elle a été ébranlée parce que Dieu ne répondait pas de la manière que je voulais. À un tel point que pendant longtemps, j'arrêtais de demander des choses à Dieu. J'avais tellement été déçu par le passé, je me disais, oh, regarde, je ne vais plus avoir d'attente, je ne vais plus me faire d'attente, comme ça au moins je ne serai plus déçu. Puis j'arrêtais de demander des choses à Dieu. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la raison pour laquelle j'avais arrêté de prier, que j'étais rempli de déception, c'était que ma foi était beaucoup plus basée sur les réponses potentielles de Dieu qu'en Dieu. Est-ce que ça se pourrait, ça ? La pensée de si Dieu répond dans le timing que je veux, de la manière que je veux, là, je saurais qu'il est réellement Dieu, qu'il existe et qu'il m'aime et qu'il est digne de confiance. Mais si Dieu ne répond pas comme je veux, de la manière que je veux, dans le timing que je veux, ou là, je ne suis plus sûr qu'il m'entend vraiment, je ne suis même pas sûr qu'il existe. Et s'il existe, je ne suis même pas sûr qu'il a vraiment ma vie à cœur. Où est ta foi ce matin ? Il y a une grande différence entre mettre sa foi dans les réponses de Dieu et mettre sa foi en Dieu. Parce que lorsque tu mets ta foi dans les réponses de Dieu, chaque délai, chaque prière non répondue à ta façon va être une occasion de chute pour toi. Va être une occasion de douter de la bonté de Dieu. Mais lorsque ta foi est en Dieu, tu peux faire face au plus grand délai du monde. Que Dieu réponde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peu importe, tu seras en paix parce que tu sais que peu importe ce qu'il arrive, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. À tous les coups, tu pourras te dire, man, c'est pas la réponse que j'attendais, mais s'il me donne ça, c'est parce que c'est ça dont j'ai réellement besoin. Regardez ce que le pasteur Timothy Keller a dit. Vous ne devriez pas commencer à prier pour tout ce que vous voulez avant de réaliser qu'en Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin. À moins de savoir que Dieu est la chose dont tu as le plus besoin, tes moments de prière peuvent même te pousser à avoir encore plus d'anxiété. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'être anxieux et d'aller en prière, de prier, de prier pour une chose et de ressortir de mon moment de prière encore plus anxieux que quand j'étais rentré. Comment est-ce que c'est possible ? Parce que je ne remettais pas réellement les choses à Dieu. Je disais à Dieu de la manière qu'il fallait qu'il agisse, dans le timing qu'il faut, parce que sinon, il va y avoir une catastrophe. Donc, je sortais du moment de prière, je n'étais pas en paix, j'espère qu'il m'a bien compris. J'espère qu'il m'a bien compris, parce que là, s'il ne fait pas ce que j'ai dit, il va y avoir une catastrophe. Oubliant à qui je m'adressais. Oubliant que je m'adressais au roi des rois, au seigneur des seigneurs, qui tient le monde dans sa main et qui sait ce dont j'ai réellement besoin et quand j'en ai besoin. En quoi est ta foi ce matin ? Est-ce qu'elle est dans les réponses de Dieu ou est-ce qu'elle est en Dieu ? Parce que lorsqu'elle est en Dieu, tu peux t'approcher de lui et tu n'as pas peur de ses réponses. Qu'il réponde oui, non, plus tard, jamais, tu sais que tu vas être correct. Parce que tu es son enfant et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que je peux entendre un dernier grand amen, nouvelle vie ce matin ? On va se lever. On va se lever tous ensemble. Et on va déclarer un chant qui est comme une prière, un cri du cœur. Un chant qui dit « Mon secours est en toi. Mon secours n'est pas dans tes réponses. »